sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et ce matin, nous avons la chance de recevoir le sociologue Jean-Louis Violo. Enfin, l'interview a été réalisée dans mon appartement parce que M. Violo habite à Nantes et donc il était de passage à Paris. Et il est venu me voir pour qu'on parle pendant 25 minutes de son excellent livre, de sa démonstration magistrale parue aux éditions Le Moniteur qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un architecte ?» À vous, M. Jean-Louis Violo. Bonjour, je suis avec Jean-Louis Violo qui vient de publier un livre qui s'appelle « De quoi l'architecture est-il l'auteur ?» publié aux éditions du Moniteur. Et il va avoir l'amabilité de nous exposer en 25 minutes l'essentiel de son objet d'expertise. À vous, monsieur Violo.
Merci Yves. En 25 minutes, on va en faire le tour, même si c'est un peu 25 ans de travaux autour de la question de l'architecte, compris comme un producteur artistique dans un champ de force avec des positions et des luttes pour imposer une vision légitime de l'architecture. Bon, tout ça, c'est en jargon bourdivien. Pour le dire plus clairement, on en arrive au bout de 25 ans, d'une certaine manière, à se rendre compte qu'il ne reste plus qu'une chose, c'est la figure de l'auteur. L'auteur en architecture, qui est-il, à quoi sert-il, existe-t-il, qu'est-ce qu'il fabrique? Et à partir de ce moment-là, on est tout de suite confondé à un paradoxe, parce que l'auteur, si on regarde les choses un peu froidement, l'auteur, d'une certaine manière, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui construit pour les autres, avec les autres, parmi les autres, et surtout avec les sous des autres. Donc c'est un univers où la production artistique est extrêmement contrainte et où on est même obligé de séduire avant de produire. Ce qui est contradictoire avec l'existence même d'une autonomie de questionnement de production qui est nécessaire au caractère artistique d'une œuvre. Bon, alors là on est face à une sorte de blocage. Mais si on continue à réfléchir, on se dit « Ah oui, mais il existe beaucoup d'architectures qui n'ont jamais été construites et qui sont parfois plus célèbres que les architectures qui ont été construites. » Les gravures de Piranèse, je pense, sont plus connues que la médiathèque de Châteauroux, à laquelle je n'ai aucune acrimonie, qui a été construite par Jean-Louis Godivier, inaugurée en 1994, mais qui a même été exposée à la Biennale de Venise dans la foulée. Donc, un bâtiment connu, et pourtant, je pense... Je fais l'hypothèse qu'on connaît mieux Piranès que la médiathèque de Châteauroux. Et puis je pense aussi par exemple à un projet comme la Tour sans fin de Jean Nouvel, que beaucoup d'architectes connaissent, même si ce projet-là n'a jamais été construit. Et il a d'ailleurs été mis à la poubelle au même moment où était livrée la fameuse médiathèque de Châteauroux. Donc, on peut imaginer faire de l'architecture sans la construire, à la marge évidemment, et on peut imaginer qu'une production gratuite de l'architecture puisse exister. Donc une fois levé cet obstacle, on se dit, bon, donc l'auteur a une chance d'exister en architecture. Et puis surtout, on arrive aujourd'hui dans une période, donc 25 ans après le début de ses travaux personnels autour de l'architecte, où cette figure de l'auteur est attaquée aujourd'hui. Elle est attaquée de partout. Et elle est attaquée des deux côtés, je dirais. Elle est attaquée à gauche. Et oui, elle est attaquée à gauche par les collectifs, par le participatif, par l'urbanisme transitoire, par l'animation urbaine et architecturale se voit plutôt sous le prisme du collectif que de l'auteur. Et puis même le retour à la campagne tel qu'il s'ébauche dans certains endroits se fait aussi au service d'eux et contre le grand geste. Donc la figure de l'auteur est attaquée à gauche. Et elle est attaquée à droite, mais ça c'est pas d'aujourd'hui. Elle est attaquée à droite par le BTP, puisque l'architecte évolue dans un système de production extrêmement concentré, avec des majors comme on dit. Et à droite, il est attaqué par les SEM, par les SPL, par toute une partie de l'économie mixte qui auparavant était beaucoup plus favorable à la liberté de l'architecte et qui aujourd'hui, je dirais, rentre de plus en plus dans le cadre de la financiarisation. Et puis elle est attaquée évidemment à droite par les promoteurs immobiliers qui, eux, n'ont jamais vraiment aimé laisser la bride sur le cou à l'auteur architecte. Donc cette figure-là, elle est un peu compromise dans son existence, elle est compromise à gauche comme à droite. Et pourtant, donc on pourrait se dire, l'architecte, l'auteur, ça n'existe pas. Et pourtant, d'une certaine manière, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que c'est un peu comme le temps chez Marcel Proust. Ça n'existe pas, puisque lorsqu'on croque une madeleine, le temps retrouvé rejaillit dans son intégrité. Et en même temps, ça n'existe pas, mais il n'y a que ça, puisque le grand Marcel Proust y consacre des milliers de pages. Et c'est un peu la même chose pour l'architecte, l'auteur, je m'entends. Ça n'existe pas, je viens d'essayer de le mettre en scène, et en même temps, il n'y a rien d'autre, parce que s'il meurt, il n'existe plus que du BTP, de la financiarisation. Et cette position, je dirais, mutilée de l'architecte, a à voir avec, là je reprends un jargon bourdivien, sa position de classe. Il est dominé chez les dominants, d'une certaine manière. Il est dominé chez les dominants parce qu'il les a toujours accompagnés dans les grandes injonctions, les grands mots d'ordre que les dominants lui ont lancés. Depuis, je dirais qu'il ne construit plus pour les gens de sa classe. C'est-à-dire que l'architecte sous l'Ancien Régime était souvent noble et construisait pour des nobles. Donc les questions d'appartenance de classe et de domination se posaient beaucoup moins. À partir de la Révolution industrielle et du XIXe siècle, il a été soumis à des pressions par des acteurs qui lui étaient extérieurs. Il a mis en scène la Révolution industrielle, le Crystal Palace en est un des monuments, une des effigies. Il a mis en scène les débuts de l'apprentissage du bien vivre dans son logement, les fondations philanthropiques, le début du XXe siècle. Il a accompagné ensuite, à l'après-guerre, l'exode rural, les rapatriés, par les grands ensembles, qui est un peu la tache noire de son histoire récente. Puis il a accompagné la décentralisation par le biais des concours et de la maîtrise d'ouvrage public des années 80, des années Mitterrand. Il a fait des médiathèques, mais il a fait aussi des sièges de conseils régionaux, des sièges de conseils départementaux. Et aujourd'hui, il est sommé un peu d'accompagner la révolution symbolique qui va se jouer autour des ressources. Comment mettre en scène une architecture qui se bâtirait avec moins ? Et ce qui pose énormément de questions à sa manière d'envisager la transformation du réel. Mais l'objet n'est pas tout à fait là. Donc l'architecte, il est dominé chez les dominants et il a accompagné les grandes injonctions du pouvoir depuis son existence. À tel point que l'un d'entre eux, un des plus célèbres d'entre eux, Rem Koolhaas, a qualifié sa corporation de mendiant et de vantard. Et d'une certaine manière, ça résume assez bien cette position, je dirais... les jeunes diraient malaisantes de l'architecte dans le système de production et dans ce champ de force au sein duquel il doit agir. Ensuite, dans cet ouvrage proprement dit, je me suis intéressé d'abord à une réflexion par comparaison et homologie. J'ai développé un long passage autour d'une comparaison avec le cinéma, puisque le cinéma, c'est une forme d'expression artistique qui présente beaucoup de traits communs. Les budgets sont plus ou moins comparables. Il y a une division du travail très forte pour la production d'un film. Mais on arrive tout de suite à des traits de comparaison qui peuvent légèrement bifurquer. Par exemple, au cinéma, il y a un générique. On voit le script, le décorateur, les costumes, le maquillage. Pour l'architecture, il y a le nom de l'auteur a plutôt tendance à écraser tous les acteurs qui ont participé à la production du bâtiment. Ensuite, si on regarde l'architecture, elle n'a guère d'occasion de briller. Le cinéma, et c'est le moment, on enregistre en ce moment, le cinéma à son festival de Cannes. Bon, les architectes, ils ont Batimat et le MIPIM, le marché international des promoteurs immobiliers, à Cannes aussi, mais qui n'est pas du tout du même goût que les stars du tapis rouge du festival. Donc, très vite, on arrive à des biais qui, là encore, compromettent un peu le caractère artistique de l'architecture. Même si on peut trouver des traits de comparaison, le metteur en scène, tel qu'il s'est construit et tel qu'il existe, avec toutes les dérives auxquelles il a pu donner lieu ces dernières années par sa construction, je dirais, narcissique, les dérives, j'entends, d'exploitation sexuelle, par exemple, et charismatique. Donc la construction du metteur en scène fait un peu penser à la construction de l'architecte star telle qu'elle a été ébauchée dans les années 80 et consacrée, je dirais, dans les années 2000 et au début des années 2010. Là, en revanche, on retrouve un trait commun. Et l'architecte a été consacré, comme le metteur en scène a été consacré par une politique dite des auteurs, et ce n'est pas un hasard si elle s'est appelée comme ça, par opposition à d'autres acteurs. Par exemple, le scénariste, qui, après la guerre, était un acteur presque tout autant important, tout aussi important que le metteur en scène. De même, on peut trouver des analogies entre le producteur d'un film et le maître d'ouvrage d'un bâtiment. Bref, j'ai essayé de réfléchir autour de cette analogie, et là, c'est pas moi, mais c'est Pierre Bourdieu qui l'a dit à maintes reprises, comparer, c'est déjà commencé à faire de la recherche, et la comparaison et l'homologie a une très forte valeur heuristique. Elle permet de comprendre beaucoup de choses. Ensuite, une fois passé ce tableau de la figure de l'auteur, j'ai passé en revue aussi la manière dont il s'était mis en scène, à travers des visages, des portraits. On remarque que les architectes utilisent toujours les mêmes photos sur Internet pour se présenter. C'est une ficelle assez connue. Et souvent, elles visent à mettre en scène un des traits de leur personnalité en tant que sujet-auteur. Par exemple, Renzo Piano, quoi qu'il construise un peu partout autour du monde, il pose toujours devant un établi, avec des outils de menuisier. C'est l'artisan de la qualité authentique, à l'italienne. Enfin, il y a beaucoup de légendes et on comprend qu'ils aient besoin, ces grands architectes, de se construire des personnages qui leur permettront d'affronter les forces contraires dès lors qu'on s'attaque à un très grand chantier. Et puis ensuite, je me suis intéressé à la question du statut du droit d'auteur en architecture. Est-ce que ça existe ? Et on s'aperçoit que la plupart du temps, non. En fait, ça existe pour le droit à l'image et à la reproduction, même si ça a été beaucoup tempéré ces dernières années, notamment par le droit de panorama. C'est-à-dire que si vous mettez votre chien ou votre beau-frère devant un bâtiment, vous pouvez le prendre en photo sans qu'aucun procès ne vous soit adressé. Et auparavant, ce n'était pas le cas. Il y a eu quelques affaires célèbres autour surtout de reproduction de cartes postales qui utilisaient commercialement l'image des bâtiments. Les architectes, dont Dominique Perrault pour la Grande Bibliothèque ou le duo Daniel Buren-Christian Drevet pour la Place des Terreaux à Lyon, avaient adressé des procès qu'ils ont gagnés contre ces fabricants de cartes postales, mais qui agissaient à un but lucratif. Les choses se sont un peu apaisées de ce côté-là. Il n'en reste pas moins que l'architecte a un droit de regard sur la reproduction de ses œuvres dès lors qu'elle est payante. C'est-à-dire que les revues d'architecture, par exemple, sont soumises à l'autorisation de l'architecte pour publier les photos. Ce qui explique aussi pas mal de choses par rapport à la critique architecturale, mais ce n'est pas le lieu d'en parler. Toujours est-il que, pour l'image, c'est à peu près respecté. En revanche, pour le droit de regard sur le devenir de l'œuvre, là, ça l'est presque pas. Et les cas sont rarissimes où un architecte a gagné un procès qu'il a intenté au propriétaire d'un de ses bâtiments qui souhaitait soit profondément le transformer, soit le détruire. Alors, par rapport à ça, on peut en tirer quelques remarques. Se dire d'abord que c'est le droit d'usage qui prime sur le droit d'auteur, c'est-à-dire que c'est celui qui en a l'usage et la propriété qui pourra le transformer. Bon, dans un régime capitaliste, après tout, ça peut se concevoir. Et puis, de notre côté, on peut se dire aussi que si le droit d'auteur de l'architecte était respecté partout dans une ville, comment ferions-nous la ville sur la ville, qui est un des enjeux très contemporains, n'est-ce pas, si on devait protéger chaque bâtiment dans le respect de l'auteur qui l'a dessiné ? Aucun renouvellement urbain ne serait possible. Donc, est-ce que il n'y a pas une forme de sagesse camouflée derrière tout ça? Et en même temps, il y a des histoires très tristes de ces dernières années qui m'avaient d'ailleurs, il y a déjà près de 15 ans, invité à m'intéresser vivement à cette question du droit d'auteur et qui ont émaillé la chronique des deux décennies passées et qui ont à chaque fois vu perdre l'architecte. Je pense en particulier à Paul Chemetov, qui a dit avec beaucoup d'humour que c'était une contrepartie de sa longévité, puisqu'il a vécu jusqu'à 95 ans, que de voir au fond des bâtiments qui avaient un demi-siècle de vie passer à trépas. Et c'est vrai que c'est une date souvent fatidique, les 50 ans, pas seulement pour le genre humain, aussi pour les bâtiments. Et les 10 bâtiments sont la plupart du temps tombés, pas pour des motifs architecturaux, plutôt pour des motifs de peuplement, puisque Paul Chemetov avait été un des pionniers de ce qu'on a appelé la banlieue rouge, qui a eu un destin très contrasté depuis, et qui, dans certaines de ses composantes, est aujourd'hui soumise à des pressions immobilières très très fortes. Je pense en particulier à Pantin, par exemple, qui est une ville qui se transforme à vue d'œil, ou à Saint-Ouen, et qui, c'est pas seulement des problèmes sociaux, c'est aussi une pression immobilière sur ces secteurs, qui ont vu beaucoup de bâtiments de Paul Chemetov tomber. Et il avait fait un procès assez médiatique à Courcouronnes, Évry-Courcouronnes, contre un bâtiment qu'il jugeait ne pas du tout avoir accompli son cycle de vie, et qui devait être détruit pour laisser passer un tramway, une ligne de tramway, et il en avait fait un objectif politique, en disant qu'il n'y avait pas assez de logements en Île-de-France, et qu'il trouvait ça inconcevable qu'on en détruise, alors qu'ils étaient encore habitables. Il a perdu sur des motifs politiques. son ami de l'AUA, de l'atelier qu'ils fréquentaient ensemble dans les années 1970, a, à la même époque, eu affaire à un autre dilemme. C'est-à-dire qu'il avait construit un musée à Arles pour recueillir les vestiges de l'art antique. Et au bord du Rhône, ce musée à Arles, et on trouve une péniche dans le Rhône, une grande barge de l'époque romaine. Disons une vingtaine d'années après l'édification du musée.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, la péniche, il faut l'exposer dans le musée. Oui, mais la péniche, elle est très grande, la barge. Mais donc, il faut casser le musée. Et le musée de Siriani, c'était un triangle. C'était un triangle parfait. Et là, eh bien, il fallait mettre un rectangle au bout du triangle, à l'un des coins du triangle, pour faire rentrer la barge. Ce qui fut fait, et Siriani a perdu son procès contre le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à l'époque sous la main de Jean-Noël Guérini, de sinistre mémoire. Et le conseil départemental a eu gain de cause en ayant cassé une des pointes du triangle d'Henri Siriani pour y mettre une barge. Donc voilà, les choses se discutent et sont assez complexes. Et ce qui est intéressant dans toutes ces affaires, c'est qu'il y a tout un tas d'enjeux qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, pour les serres de Roland-Garros, de Formiger, quelqu'un pas très connu, mais qui était un paysagiste et qui avait dessiné un jardin avec des serres en marge du bois de Boulogne, entre le bois de Boulogne et Roland-Garros. Il y a eu 10 ans de procédure, lancée notamment par les héritiers de Formiger, qui habitent ce quartier, et qui surtout étaient la figure de proue d'une association de riverains qui n'avait pas du tout envie de voir le stade de tennis s'élargir, qui n'en avait à mon avis rien à faire ou pas grand-chose des serres de Formiger. Donc il y a toujours des facteurs annexes qui entrent en ligne de compte et qui rendent ces cas particuliers généralisables et en même temps très intéressants, des révélateurs sur la position de l'architecte. Autre cas, les bons enfants. Les Bons Enfants, c'est un immeuble qui abrite aujourd'hui la direction de l'architecture depuis une quinzaine d'années et qui est un immeuble de Charles Vaudoyer, un immeuble du tout début du XXe siècle. Et les héritiers se sont dit « Bonne, c'est le ministère de la Culture qui va poser une résille sur le bâtiment de notre grand-père. Il va donc porter atteinte au visage de l'édifice. » Et le ministère de la Culture, chargé de faire respecter les droits des artistes, va se trouver forcément gêné aux entournures. Et donc, ils ont intenté un procès au ministère de la Culture, qu'ils ont gagné, mais le ministère de la Culture était redevable que d'un euro symbolique. Et menaçant de faire appel, la ministre de l'époque, Christine Albanel, a donné près de 300 000 euros aux héritiers de Vaudoyer pour les empêcher de faire appel. La Cour des comptes est intervenue quelques années plus tard en trouvant une libéralité excessive dans l'attitude du ministère qui avait et sa réponse aux héritiers de Vaudoyer. Et pour ainsi dire, le ministère se trouverait lui-même pris à son propre piège. Donc chacune de ces histoires raconte une histoire différente de l'insertion sociale du monde de l'architecture dans un bain qui dépasse le statut de l'œuvre. Donc voilà, je me suis intéressé à tous ces cas, pour ainsi dire, pas en avocat, hein. Je ne défends la cause de personne, je cherche juste en sociologue à voir ce qu'ils disent du moment qu'ils les ont vus émerger et ce qu'ils disent du système de production de l'art qu'il y a derrière. Ensuite, je me suis intéressé à la division du travail, puisque l'architecte, c'est quand même un cas particulier. Encore une fois, je parlais des réalisateurs du cinéma, c'est quand même un cas particulier qui est le chef, parfois, de grosses entreprises qui peuvent dépasser la centaine de salariés. Donc qui est l'auteur ? L'auteur, c'est le patron, c'est celui qui voit l'expert comptable à midi, c'est celui qui voit un promoteur, qui va régler des problèmes de ressources humaines, et puis qui éventuellement le soir va retourner à la lumière de sa lampe au projet, ou c'est le salarié chef de projet qui développe le projet, qui le rend constructible, qui est en lien avec les entreprises ensuite durant la phase de chantier, et qui souvent disparaît, je le disais pour commencer, du carton qui indique qui a fait quoi dans le bâtiment. Donc c'est une figure qui est un peu mythique et construite, socialement construite, pour des impératifs qui anoblissent une production par ailleurs très contrainte dans les normes du bâtiment et dans les normes de la finance, là encore je l'ai dit pour commencer. Et puis je me suis intéressé aussi dans cet ouvrage aux figures contemporaines de l'auteur, alternatives. Dans tout cet univers, il y a aussi des auteurs anti-auteurs. Le plus célèbre d'entre eux probablement de ces dernières années, années étant Patrick Bouchain, qui s'est construit une figure autour de, une figure d'auteur autour de la lutte contre l'auteur, pour la participation, pour la prise en compte de toutes les voix, et dans une forme d'exercice alternatif. Et qui a beaucoup inspiré des générations qui aujourd'hui arrivent et qui rêvent d'une sorte d'architecte de, à la campagne, un peu comme on a rêvé à un temps, c'est plus le cas avec les déserts médicaux, mais le médecin de campagne, qui serait au chevet des petites communes sans moyens pour leur apporter des réponses spécifiques, tout en faisant, je dirais, son métier discrètement. Et on s'aperçoit assez vite que cette génération qui arrive va avoir beaucoup de mal dans le système de production de l'architecture à exister, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'architecte est rémunéré au pourcentage des travaux. S'il était rémunéré à la mission, s'il était rémunéré dans une enveloppe globale, peut-être y aurait-il une chance, mais en tant que sociologue, et pour, j'espère que cette chance pourra être réalisée, mais j'y vois quand même ce principal obstacle qui est celui de la rémunération. Et tant que la rémunération se fera sur le montant des travaux, cette figure-là aura de toute façon beaucoup de mal à exister. Et puis elle-même, cette génération n'est pas exemple de paradoxe. Autour du confinement, ces désirs de campagne, ces désirs de retour au, à l'authenticité se sont manifestés de manière générale dans la société. Et les architectes ont aussi entonné cette position, ce chemin. Et on s'aperçoit, par exemple, que sur la, il y a une très bonne enquête de sociologues d'un laboratoire d'école d'architecture qui s'est intéressé à la HMO, l'habilitation à la maîtrise d'œuvre, en son nom propre. Et elle a interrogé toute une cohorte, la cohorte 2019-2020, pour rappeler son rapport de recherche Génération HMO. Et ce qui m'a troublé à la lecture de ce rapport, c'est qu'il y a ce souhait un peu incoatif d'un métier à la campagne idéalisé, et lorsqu'on regarde la trajectoire de ces candidats à une autre vie d'architecte, on s'aperçoit que la plupart ont fait leur mise en situation professionnelle, je jargonne, mais c'est les termes, c'est la MSP, ont fait leur mise en situation professionnelle, c'est-à-dire leur 1 à 2 années de stage dans une structure pour apprendre le métier, après leur diplôme à l'école, dans des grosses agences de plus de 30 salariés. Et les grosses agences de plus de 30 salariés, elles sont où ? À Nantes, il y en a 2. Et une troisième historique, l'AIA, et puis il y en a 2. 2, dans une ville de 600 000 habitants. En fait, elles sont à Paris, ces agences. Et la plupart sont à Paris. Et donc, ces jeunes qui rêvent d'un autre métier ont tous, lorsqu'ils ont dû choisir, fait leur mise en situation professionnelle dans des grandes agences parisiennes. Donc, ayant travaillé sur mai 68, quand j'étais plus jeune, et la trajectoire de cette génération, et les proclamations de principe qu'elle a pu poser à un moment donné, puis les revirements qui ont eu lieu ensuite, j'attends. J'attends avec bienveillance, et j'espère qu'autre chose pourra s'inventer, mais je me dis que les leçons de l'histoire nous amènent à être un peu vigilants. Voilà, donc c'est un peu tout ça que je raconte dans ce livre. Je raconte aussi la manière dont un style, et ça, la question du style est très intéressante dès lors qu'on s'intéresse à l'auteur, puisque l'auteur inquiète d'une certaine manière, alors que le style rassure, il est codifié, il emprunte des chemins connus, des chemins balisés, alors que l'auteur, c'est toujours une subjectivité qui va intervenir dans, au sein de ces balises et mettre de l'incertain, de l'inconnu, du nouveau. Bon. Le style contre l'auteur, c'est aussi une bonne clé de lecture et qui parcourt le livre. Et il y a un style, ces dernières années, qui a dominé, si on veut, les écoles d'architecture et les revues françaises, qu'on a appelé un néo-rationalisme, et qui est né de la crise de 2008, crise immobilière, la plupart des crises sont des crises immobilières, et qui est né d'une sorte de réponse spécifique à la discipline architecturale aux injonctions de la financiarisation du bâtiment et de la montée en puissance définitive des promoteurs immobiliers. C'est-à-dire qu'elle a, ce style néo-rationaliste a visé l'ossature, a visé la simplicité, a visé une sorte de degré zéro de l'architecture, si on voulait reprendre la formule de Roland Barthes, et a cherché à mettre en scène les contraintes de l'époque. La structure et la raison constructive pour répondre aux injonctions de rentabilité de la financiarisation. Le problème, c'est que quand on est déjà à l'os dans une architecture, si on tombe sur un promoteur qui veut encore plus la désosser, là, il ne reste plus grand-chose. Et c'est un peu le destin un peu malheureux de ce courant de ces dernières années, c'est qu'il n'a pas toujours su faire la preuve de son efficacité face au rouleau compresseur de la promotion immobilière. Mais comment lui jeter la pierre ? C'est, encore une fois, c'est une production artistique tellement contrainte et tellement encadrée, pour ainsi dire. Voilà, donc un tableau d'ensemble.
Écoutez, merci. On n'a pas parlé des stars architectes et d'un tas d'autres choses, enfin de la société du spectacle qui a régné avec cette génération de 68 et qui est en voie de disparition ou de renouvellement. Et j'espère que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer des commentaires, on réagira, on fera une autre émission. C'est passionnant, tout va muter. Ce livre, donc, De quoi l'architecture est-il l'auteur, est un superbe état des lieux que je vous recommande chaudement, paru aux éditions Le Moniteur. Merci.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Pressés dans le métro, qui se bousculent dans les rames. Les gens qui fument au bistrot, aux fumées aériennes, dont se plaignent les vieilles dames. Y'a les gens qui crient, tout le temps, ceux qui sourient, de temps en temps. Et y'a les gens qui dansent, partout, et n'importe comment. J'adore. Les gens qui doutent et ceux qui redoutent. Les gens qui se perdent ou qui savent plus. Des gens qui s'emmerdent, qui se traînent le cul. Y'a les gens qui se taisent, qui n'ont pas les mots. Les gens qui pèsent ce qu'on entend à la radio. Et y'a les gens qui dansent partout et n'importe quand. N'importe quand. J'adore. Les gens qui se battent, et d'autres qui attendent, qui font passer le temps. Y'a les gens violents, y'a les gens dangereux, qui aiment les frissons, et puis y'a les peureux. Les gens qui s'écoutent, parler dans le vent, qui refont le monde, qui eux seront survivants. Et au milieu de tout ça, y'a les gens qui dansent, partout, en silence. J'adore.
Mes chers auditeurs, vous êtes vraiment une bande de petits chanceux. Il y a les gens qui écoutent et il y a les gens qui lisent. Et ce matin, on a la chance absolument inouïe d'avoir Thierry Théolier, aka T, qui est venu nous lire son dernier livre, Même pas mal. Et ça, je vous souhaite bien du plaisir. Détendez-vous, couchez-vous sur le tapis, fermez les yeux Et écoutez, à vous, monsieur Théolier.
Je cherche à produire naturellement ma propre drogue avec l'alphabet. Si on n'a pas fait d'HP à 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie. Binger sur Netflix est la manière la plus agréable pour ignorer la littérature. Notre besoin d'open bar est impossible à rassasier. Tu n'échapperas pas à la douille. Elle te rattrapera toujours. La douille est ton coach. Le passé a été effacé des data centers. Bienvenue dans le présent. Nostalgie du futur. Je suis vegan, je ne bouffe plus que du porno. Quand elle te roule une pelle, elle se concentre de ouf. Tu es tous ces métavers réunis. L'instant est éternel. Parce qu'elle n'a plus envie de binger ces séries de merde. Elle oublie même l'OP champagne du soir. La seule chose que je tire en toi, c'est ton côté rock'n'roll. La mode, c'est tout ce qui reste aux matérialistes quand la matière noire s'abat sur eux. Le politique se niche exactement là où tu aimerais te faire sucer dans ton coin de paradis qui a des relents d'enfer. Les autoproclamées sorcières, un rayon à la Fnac chez Picard spécialement marketé pour elles, orchestre des inquisitions, s'élevant contre rien d'autre que leur propre psyché renversée. Ne me faites plus pleurer, je suis plein de sperme. Mon père est mort, je vais enfin pouvoir baiser des garçons. Arrête de pleurer, tu taches ma lame. Promis, je t'achèterai l'animatronique Grogu, le baby Yoda du western intergalactique. Oh oui, c'est promis, chérie. Mais avant, enfile-moi cette philosophie en latex. Il y a des hommes qui écrivent jusqu'à ce qu'ils aient quelque chose enfin à vivre. Il y a des dudes qui vivent jusqu'à ce qu'ils aient enfin trouvé quelque chose à spammer. Et il y a moi qui spamme jusqu'à ce que j'ai enfin trouvé quelqu'un à aimer. Dimanche. Les chats se portent bien, la molaire me fait un mal de chien. J'ai commandé des nouilles sautées aux fruits de mer. Le restaurant chinois, le double bonheur, est saturé de clients autochtones. Il dévore, écrit bordel. Quelle énergie, quelle joie! Je mets alors mon casque turbo-basse et Satie seul, entouré d'exilés, mangeant du calmar avec une musique qui a le mérite de rendre la sauce moins aigre. J'irai mater au multiplex le reboot Devil Dead. Je pense aux femmes qui confondent amour et besoin. Je pense aux hommes qui confondent amitié et léchage de cul. Je pense aussi à toi. Le vieux concept patriarcal de faire jouir les VIP du buffet, de l'open bar, du salon privé, n'est pas du tout inclusif. Le nihilisme est le papier cadeau du néant. Joli, il brille, mais il ne restera qu'un emballage, au mieux une décoration. Amour déçu, le cœur n'y est plus. Au milieu du quai, hébété, je forniquais. Et toi, tu m'attendais au terminus. Ton anus me manquera pour toujours, mon amour. J'ai abandonné l'idée d'avoir des idées. Je laisse le désastre des concepts opérer au sein de l'histoire. Je remarque toutefois que lorsque tu as la crève, foutre tes pieds dans de l'eau chaude avec de l'huile essentielle, avec un grog géant, en matant la série Louis de Louis C.K., c'est pas mal. C'est même pas mal, pas mal du tout. Les orages d'été sont parfaits pour faire l'amour à trois. Les Bérus n'ont jamais été punk. C'était seulement de l'art contemporain. Souvent, j'ai voulu manger un kebab le dimanche et il était fermé. Certains ne consomment et ne teasent que du génie mainstream, de la hype overground, au pire de l'underground subventionné, pour recevoir en contrepartie une aura d'intelligence ou d'originalité, sinon de succès. D'autres s'intéressent et font la promo 2.0, plutôt au nanar, au ratage, au loser, au weird, à l'extrême underground. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. La contemporanéité la plus radicale doit être celle inspirée d'un Anakin Skywalker, persuadé que si l'autodestruction doit apporter le maximum de jouissance, il n'existe pas au bout du compte de plus belle mort qu'une série de shots de vodka et des rails de kétamine sur le ventre d'une suicide girl. Il est nécessaire d'élever les gens au niveau de la hype et ne pas baisser la hype au niveau des people. Les Flaubert ratés détestent Bukowski, par contre les Hank réussis adorent Maupassant. Démerde-toi. En amour, gagnez du temps, soyez dès à présent indifférents. Les poètes de merde ne sont pas des rockstars, comme les autres, ils cuvent au flunch. Il y a le principe de réalité, ne pas critiquer le réel. Il y a le principe de mondanité, ne pas critiquer l'hôte. Le principe du syndicat du hype, tout critiquer en vidant l'open bar et se barrer avec la bourgeoise bourrée. Mieux vaut embrasser violemment un élève des Beaux-Arts que d'enculer tendrement une granny galeriste du Marais Puant. Non, quand on est abonné au syndicat du hype, on peut tout faire, comme sodomiser, vertement, la bohème. Le monde littéraire n'est pas tant un panier de crabes qu'un puits acide infesté de scorpions. Derrière toute douille se cache la tristesse du temps qui passe. Le chagrin d'amour n'a rien à voir, ou alors à peine. Et cette minuscule parcelle est encore plus intolérable à supporter, car elle prend toute la place comme un petit caillou dans un soulier. Il faudrait dès lors trouver sa vie de temps en temps, pour que ce grain de mélancolie se fasse la malle. Let's party hard. Je trouve un retour sérieux dans le showbiz. Roman gore? Porno pour Siebert? AVC underground. Pour Coralie Trinity, se rouler des pelles est la plus ancienne performance entre deux artistes sans œuvre. Certains hommes ne peuvent pas s'empêcher de baiser des canons et se foutre après le tir des boulets aux pieds. Critiquer me fait bander. Le couple, c'est l'instinct grégaire à deux, alors que la polylouse, polyamour en pure perte, repose sur l'assaise du desk. J'adore être défoncé, c'est vraiment idéal comme état politique. L'écrivain écrit pour vivre, le poète vit pour écrire, le poète de merde survit et spam. Je ne lirai si seulement je me fais sucer à la fin de ma lecture sur l'engagement de l'artiste dans la société performance trashose de Bibine, open bar offert par la Société Générale. Il faut avoir zoné en enfer pour ruiner le paradis. En 2000 what the fuck, sur Facebook, tu tombes sur Béatrice Dalle. Tu la bloques pour éviter une dépression. Dimanche, 50 ans. Tout ou rien. Je choisis le milieu, je t'appelle. On va aller faire un tour au Morissette. Jouer au flipper. On boit des bières. Au comptoir, on débloque les quatre boules en même temps. La dopamine est lâchée dans nos veines. En terrasse, des nanas bandantes descendent des pintes. Entre deux parties, on s'assoit à côté d'elles. Useless. On ne les intéresse pas. À part une légèrement bourrée, je parle avec elle. Mais je retourne au flipper. J'ai claqué une partie gratuite. Le désir, ça se construit. J'ai dû tilter pendant l'extra-balle. La poésie est opportuniste. Elle veut lécher le fion de l'univers. Et le poète, lui, il est raviste parce que lui, carrément, il veut être le fion de la poésie. Chier des opportunités, se faire sucer la queue, son seul unique univers. Je bois pour rendre certaines femmes plus désirables. Je bois beaucoup, mais moins qu'elles. Open bar fashion. Entrée libre, sortez bourré. Un génie peut être un con, rarement l'inverse, sauf avec l'aide de la presse. Quand rien n'est dit, nul n'est consommé. Tout réside dans une situation équivoque. Quand le désir se déploie silencieusement dans les veines, alors la dopamine afflue par de puissantes salves pour remplir le vide. Le néant béant, c'est une illusion, une chimère. mais elle est plus clémente et fidèle que la réalité des additions. Spammer des haïkus du 19e ou en slip en H&M ou écrire de la poésie rive gauche en Balenciaga, autant croire que le monde est important, immense, sacré, étincelant, alors qu'il est coincé dans une bulle quantique qui n'éclate pas et qui tombe vers le haut en récitant l'annuaire des divinités d'un hypermarché. La culture, c'est un pitch consensuel sur FIP, alors que l'art est une bonne séance de spanking sans parole, la culture ayant la bouche pleine. Accusé de déception, je me suis plié en quatre pour pénétrer son enveloppe. Malheureusement, elle était timbrée. Nos pelles alcoolisées sont plus profondes que vos coïts aseptisés. Dans la hype, réellement un renversé, le hater est un homme amoureux de ton info. Au marché, au cul du camion, on attendait notre rondelle de saucisson, comme l'enfant de cœur, l'hostie. Même le yinche avait droit à sa rondelle. Il frétillait du cul, on repartait avec un bout de gras logé dans le creux de la dent, et c'était toujours le même dent. À force d'essayer d'extraire ce bout de gras avec la langue, on l'abîmait la langue. Et c'était toujours enflé au même endroit. Jamais un cure-dent pour dégager ce bout de sauciflard. La poésie, c'est ce bout de saucisson avec lequel tu t'abîmes la langue. Les pros, eux, ont des cure-dents plein les poches. Les bourgeois vieux slips considèrent l'art comme un musée, tandis que les dudes en string léopard s'en servent comme d'une pharmacie. Je vomis la mode, je digère le style, je mange la mort, je chie la vie. La hype n'apporte rien de mauvais, la hype apporte toujours quelque chose de pire. Il n'y a pas de plaisir plus intense que de faire rire une femme enfant avec un QI de 120 et qu'elle lance qu'il est con. Se cantonner à un seul réseau, une scène unique, une esthétique particulière, un mono-ghetto, équivaudrait à baiser la même créature dans la même position pendant 3000 ans. Dans les années 80, le punk mondain lançait aux aristos une flûte de champ à la main, No Future, en étant rentier. En 2000 What the Fuck, le dude au RSA spam No Présent devant un cubi. Complainte du bouliste vacataire. Ça te pend au nez, longe la colonne, un effet glacé. N'oublie jamais tes vacataires de Tokyo à Lisbonne, en passant par la rue des anémones. À l'ère tertiaire, tu n'es que vacataire, ne serait-ce qu'en humant cette ère. Qu'importe les dates, s'en fout les faits, qu'importe ton métier, ton talent, ta technique, le néant te nique. Effecte ton vœu de fidélité, cette morveuse partira avec le premier Kleenex de service. Ça te pend au nez. Oh oui, ça te pend au nez. Tout le long des années, tes vices partiront en fumée, par ton corps cheminé, ça te pend au nez. Promesse d'embauche, promesse de débauche, tu tires sous le couvercle au centre du cercle, comme on dit à la pétanque, c'est pas payé. Mec, resserre-moi un godet, on n'a jamais assez de ces belles promesses et mauvaises ivresses pour oublier la réalité du terrain, tout est vain. Le soleil est un cochonnet, une crotte de nez en feu, elle te pend au nez. Tu es en vrai mort-né. Ta vie est une parenthèse, pas besoin d'antithèse. Une averse synthèse est si vite arrivée. Ça te pend au nez. Oh oui, ça te pend au nez. Ça te pend au nez.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Les matins, pour briser le silence, il lui arrivait de péter si fort qu'il en faisait craquer ses vertèbres. Nuit blanche, toute la thune flambée dans l'étalage spectaculaire pour ses commandes de parc, d'attractions esthétiques, relance mes hémorroïdes activistes. Les millions claqués dans ces nuits blanches pourraient soutenir des projets punk toute l'année, comme la reproduction en masse de clones de la petite Greta, la construction de cyborgs pour péter la gueule au Robocop de Manu Premier, ou payer des putes aux handicapés, aux dudes qui douillent. Non, ça va encore couiner. Oh, c'est beau, mon amour. Oh, comme c'est magique. Regarde, ça brille. Bande de suckers. Les artistes de la nuit blanche, je vous boute le cul. Je vous botte le cul chaque année avec votre ambition d'être les opérateurs de la société du spectacle 2.0. Tiens, moi, je propose un banquet de rois aveugles pour les migrants, avec possibilité de baiser gratos des gentils bobos tatoués goth ou des hipsters augmentés qui se donneraient au moins offrant de ce système qui va droit dans le mur. Et on s'en fout des fresques, street art, vulgaire, vitrine pour artistes bankable ou en devenir. Oh putain, ça va mieux, je vais allumer ma Xbox 360 et je vais me refaire Dead Space 2. Après un OB, on sous-estime trop le quadruple cheeseburger sauce spamouraï sur son plateau de frites au fast-food. Mon principal projet est de ne pas en avoir. C'est très difficile de s'en priver. Le projet est vital comme la ventoline chez les asthmatiques en crise. J'ai arrêté de respirer depuis ma fréquentation des abîmes. Des branchies se sont développées est devenu qui spamme des mêmes pas mal. Scoop pour Aligre. Il n'y a pas mieux au monde qu'une otisse pour vous sucer aussi bien la queue. Du boulot d'orfèvre avec une concentration hors pair, un dévouement hors norme. Et si vous vous retenez, la nuit passe sans un mot. Une seule sequeuse vous manque. Je t'aime autant que je me déteste. Liste pour bonheur immédiat. 1. Le porno du film d'auteur underground. 2. L'alcool de l'amour universel. 3. La cigarette de la relaxation sans effort. La vape de la nicotine pure avec un goût de tiramisu. 4. La junk food de la gastronomie punk. 5. Réseaux sociaux de la connexion mondaine. 5.2, syndicat du hype des open bar, OB. 6, le shopping en ligne, de la récompense sans écrire un roman. 7, le vol dans les magasins, de l'autofiction sans écrire. 8, l'amour toxique, matos pour des poèmes de merde. Summum du dude. Après compilation du manuscrit ici présent et lecture Schopenhauer pour les nuls, ronflé à moitié éveillé, un lundi après-midi, écouter son ronflement comme une sorte de poésie sonore, noise, lâcher prise, une conscience modifiée en méditation paresseuse au point culminant de son art maintenant pétanque. L'art n'est pas mon métier, mais la beauté, le trash, la transgression, le freak, la rupture font partie de ma nature. Ceux qui se déchargent trop rapidement de leur fardeau sur le chemin de la douille le retrouveront tôt ou tard sous un autre visage, un autre projet. Ils passeront alors à côté de leur désir, cet amour freak ou l'art pirate, parfois même les deux fusionnés. Ils comprendront peut-être un matin avec une gueule de bois XXL que ce fardeau n'était rien d'autre que leur peur, leur vanité, leur orgueil qu'ils ont voulu effacer. Oh yeah, je douille. La polylouse permet d'aimer plusieurs personnes, jusqu'à dans leurs retranchements les plus profonds, alors que la baise Kinder Surprise, Crumble, hockey stupide, adopte un con, est limitée en étant honnête avec son cœur à l'élasticité des organes ou la compatibilité des comptes en banque. Mon lit, un clic-clac qui ne clique plus, tellement instable, voguant sur mes illusions perdues, devient ce gadget érotique tanguant à Tanger. Ce lit pourri, je l'ai surnommé le Titanic. Le prochain iceberg solitaire nous fera couler et goûter le mal des profondeurs. Le dudisme partagé avec les amis est le plus doux des baumes au plaid de la douille. Qu'y a-t-il de plus fascinant qu'une femme paumée, si ce n'est un homme amoureux d'elle ? Ce qui est beau chez un artiste, ce n'est pas son art, ni sa production, encore moins sa collection de PME, mais sa liberté de ne rien faire et de jouer à la pétanque au Kong. Faut que j'arrête de prendre les gens pour des cons, dis-moi qui est blême, si ce n'est l'aurore à ma fenêtre. L'existence du dude n'arrête pas de scandaliser le dandy. Le seul fait qu'il existe lui procure un vague malaise, et devant l'attitude dudesque, le dandy ressent un léger mépris, accompagné d'une surprise et de désarroi. Il faut que la hype vous arrache vos rêves, sinon ce n'est pas de la hype. Cette femme était un puzzle dont la moitié des pièces étaient manquantes. Je ne voulus briser mon cœur pour la compléter. La canicule, c'est comme le wokisme. Elle n'existe que dans les médias, dans la bouche des bimbos météo et dans la grande gueule des VRP du camp du bien. L'amour et patience. Certaines en sont démunies et dire que je mets 4 heures pour éjaculer. Les hommes complexes sont plus féminins que certaines femmes compliquées. La nuit, je ronde, je me vide à travers tes reins ma plaine. La nuit, je ronde, je m'en lave le nain. J'ai dans mes méphisto un grand zéro de manifesto, où meurt encore ton écho, où jouit toujours mon ego. Hommage à Bachung et à son parolier. Ma nature profonde est superficielle. Cette superficialité n'est nullement profonde. Elle ne dépasse pas le gosier. J'ai rien contre d'être dans la friend zone de certaines, mais qu'elles évitent de me foutre la pression comme pour une relation avec sodomie. Les suckers sont le moyen par lequel la hype tente de se suicider. Chaque femme sublime s'apparente à un album, concept dont souvent la face B est rayée. Parfois c'est la première, alors on gagne du temps. Mon ange, vous êtes si enivrante et si souvent bourrée que les lendemains de nos entrevues, j'ai une gueule de bois de tous les diables. Signé, ton dude adoré. Vous teasez l'enfer, mais dès que quelqu'un pète du soufre dans l'ascenseur social, vous l'enfermez à la cave. Quatre dudes jouent au poker menteur avec leurs dents arrachées, tombées. Au cours des années, les quatre faces sont ornées à l'encre de Chine de... mort, sexe, art, vie. Ils jouent leur amour propre. La norme est l'ennemi du terrorisme poétique. Si le queer devient le parangon de la hype littéraire, tu ressors les patogas redneck. Plus j'avance vers la mort, plus je côtoie fantômes et abstinentes. Cette femme, c'est ma kryptonite. Dès qu'elle s'approche, je me défais de mes pouvoirs. L'avantage, ils étaient ceux d'un super connard. Sans eux, je redeviens tendre, presque humain, le palpitant aux aguets, prêt à flancher. Une toute dernière fois, tu lui diras « Elle ne ressent rien, c'est une magnifique chianteuse. » Les bourges, les rentiers ont la faculté d'être cool avec l'oisiveté, l'avant-garde. Pour les dudes au RSA, c'est déjà plus serré du string. D'ailleurs, j'en pense pas. Ou alors léopard. Garder l'amour aussi volatile que du poppers ou un truc comme ça. Il est plus difficile de rendre l'ordinaire glamour que de vivre le glamour de manière ordinaire. Le manque d'amour engendre le besoin de perversion, mais en l'absence de cette dernière, rien n'est sollicité, si ce n'est un vide irrémédiable, irremplaçable, que seul...
Merci, monsieur Théolier.
Merci,
monsieur. Alors, hommage à Boris Bergman, donc.
Ah bah oui, oui. Oui, c'est lui ou pas?
Ouais. J'aimais beaucoup, c'est lui, la grande époque, Vertige de l'amour, etc., c'est lui.
Tout à fait, c'est un remix de son texte.
Et il était adorable,
ce mec. La nuit, je mens.
Écoutez, une belle performance, j'espère que vous avez apprécié cette qualité d'écriture, ce sens du rythme et de la sonorité, et cette façon d'intégrer tout ce vocabulaire de la hype anglo-saxonne, anglo-saxonisant.
Et parisienne.
Et parisienne, bien sûr. La pétanque et la techno et les rêves parties et les boîtes de nuit, non, c'est trop.
Et les open bars.
Et les open bars.
Oui.
Merci, à la semaine prochaine. C'était La vie est un roman sur Aligre FM 93.1. Oh, merci à Lucas Penture qui est de l'autre côté de la vitre et à René Clancy. Je l'ai dit, merci à vous, la technique, bravo.
Merci aussi.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.